Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 5 août 2021 et bienvenue chez moi. Je vous avoue que ce matin, quand je regarde un petit peu les marchés, j'ai l'impression qu'on est en train de s'endormir gentiment pour aller jusqu'à la fin du mois d'août parce que les volumes sont pas là, que les réactions sont toutes un tout petit peu, j'ai envie de dire, en surréaction. Alors autant d'un côté, rien ne se passe sur certaines choses, et autant de l'autre côté, vous avez des explosions. Je prends le cas de Moderna, par exemple, qui est passé en l'espace de 3 jours de 340$ à 430$ quasiment. Donc on a une espèce de pétage de plomb sur certaines choses. Et de l'autre côté, on a des marchés qui restent globalement mous. Si on regarde un petit peu les indices, eh bien effectivement, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Hier en Europe, ça allait un petit peu mieux parce que finalement, les gens voyaient des bons chiffres économiques, étaient relativement rassurés sur les performances européennes. Et donc ça allait pas trop mal. On avait une jolie journée en Europe, on va dire. Le DAX terminait relativement bien, en hausse de presque 1%. Donc ça se présente plutôt pas mal. C'était bien, bien tranquille, bien structuré, positif sur les chiffres économiques. Le DAX n'arrive toujours pas à remonter au-dessus de ses 15 800 pour l'instant, mais on s'y approche gentiment. Voilà, mais ce n'était pas le monstre transcendantal, mais ça allait relativement bien. Par contre, aux États-Unis, c'était un petit peu plus en ordre dispersé, puisque le Dow Jones terminait sa pire séance depuis 2 semaines. Alors c'est vrai que le Dow terminait en baisse de 0,9%, le S&P un peu moins, et le Nasdaq terminait en hausse parce qu'il y avait encore beaucoup d'intérêt sur la techno, de nouveau, on y reviendra un peu après, mais globalement le Dow Jones était sous pression. Alors c'était principalement pour des données économiques, parce qu'on a eu quand même pas mal de choses au niveau économique. Alors la première, c'était l'ISM non manufacturier, hein, qui était nettement plus fort que les attentes. Alors tout d'un coup, les gens se sont dit, alors ouais, effectivement, l'économie va relativement bien. Bon, je précise quand même que l'ISM non manufacturier, c'est un chiffre qui est donné sur un mois et pas non plus sur les 24 prochains mois. Enfin bref, peu importe, la réaction était positive. Ça a aussi entraîné des commentaires assez bullish. On va dire bullish pour l'économie de la part de Monsieur Clarida. Alors Monsieur Clarida, c'est un des membres de la Fed, bien sûr, et donc lui s'est lâché hier en disant que selon lui, la force relative de l'économie pourrait pousser largement la Fed à monter les taux en 2023. Alors, ça n'a pas fait non plus cracher le marché, mais une partie de la pression vendeuse était très axée sur le fait que Monsieur Clarida pensait qu'on pourrait monter les taux en 2023. Alors, je précise quand même que 2023, c'est dans au minimum 18 mois, au minimum, et qu'à partir de là, ça reste quand même un tout petit peu ésotérique de balancer des trucs pareils, sachant que pour l'instant, le marché a quand même une vision pour les 24 prochaines minutes, pour ceux qui voient ça de manière très long terme. Donc, néanmoins, petite pression et gros stress au niveau des taux d'intérêt qui pourraient monter en 2023. Et puis alors, au passage, il faudra quand même signaler les chiffres de l'emploi ADP. Alors bon, les chiffres de l'emploi ADP, on s'en fout en général, c'est pas très très important. On utilise ça plus ou moins comme antichambre des chiffres des non-farm payroll qui sortent généralement 2 jours plus tard, comme c'est le cas cette semaine. Et donc par rapport à ça, les gens se disent, ouais, si les chiffres là sont bons, ça voudra aussi dire que les chiffres de vendredi seront bons. Alors pour l'instant, je sais pas comment il faut les prendre, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont pas bon du tout, Puis alors surtout, mais à des années-lumière des attentes des analystes. Hein. Donc, grosso modo, vous aviez une attente de la part du consensus des économistes qui était de 653 000 créations d'emplois attendues. Donc voilà, les gens créent des emplois, les entreprises créent des emplois, tout allait bien et c'est ce qu'attendaient massivement les économistes. C'est donc sorti à 330 000. Donc on n'est pas de 3 000 emplois à côté, on est à côté de 300 000 emplois. On s'est gouré de plus de 323 000 emplois par rapport entre les attentes et la réalité. Alors déjà, on peut se demander à ce niveau-là à quoi ça sert de faire des prévisions pour être aussi faux que ça. Et puis surtout, ces temps, quand on regarde surtout les prévisions des analystes et autres économistes, j'insiste un peu, mais c'est quand même pas de ma faute, ils sont complètement, mais complètement à côté de la plaque, complètement à la rue, c'est à des années-lumière de la réalité, alors que ce soit sur les sociétés, que ce soit sur l'économie, ils sont complètement faux. Donc j'ai juste envie de me dire, à ce niveau-là, faire des prévisions, ça sert strictement à rien. Donc les prévisions étaient complètement à côté de la plaque, mais c'est quand même inquiétant, ça fait quand même une grosse différence. Alors, si on creuse un petit peu dans le détail des chiffres d'hier, eh bien, alors il faut se rassurer, hein, parce que les mauvais chiffres, entre guillemets, c'est pas tellement parce que on ne crée pas d'emploi. C'est surtout parce qu'ils trouvent personne à engager. Oui, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui sont au chômage après la crise de la pandémie de l'année dernière et la mise au chômage de près de 40 millions de personnes aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui sont au chômage et qui ne veulent pas retourner travailler parce qu'effectivement, les jobs qui sont proposés sont surtout des jobs à court terme et des jobs qui sont surtout dans ces jobs de service comme la restauration, l'hôtellerie, les voyages, les vacances, etc., etc. Et les gens ne veulent plus de ce type d'emploi malgré la hausse forte des salaires qui va inévitablement nous mener aussi, d'après ce qu'on regarde dans les chiffres économiques, à une hausse de l'inflation, et une inflation qui devrait être transitoire, mais plus tant que ça, parce que quand on voit que la hausse des matières premières persiste et que les niveaux des salaires augmentent de manière fortement, enfin assez massive, eh bien ça laisse supposer que l'inflation transitoire risque de se transformer en une inflation qui dure, et où on a alors un transitoire qui risque de durer plus que quelques semaines ou quelques mois, mais plutôt quelques années. Donc il y a un petit peu un stress de ce côté-là aussi, mais pour l'instant c'est un peu trop tôt pour en parler. Néanmoins, très mauvais chiffre de l'emploi ADP, c'est pas forcément rassurant pour les chiffres qu'on attend vendredi, puisque bah, vendredi on va avoir quand même le non-farm payrolls où on attend 870 000 créations d'emplois pour le mois de juillet. Alors là, on va les attendre au virage pour voir si c'est vraiment correct par rapport à ce qu'on vient de nous sortir aujourd'hui. Mais si on fait une règle de 3, ça risque d'être une sacrée déception. Affaire à suivre, on en reparlera lundi matin après la publication de vendredi à 14h30. Je rappelle qu'on attend 870 000 créations d'emplois pour les non-farm payrolls et un taux de chômage à 5,7% contre 5,9%. Le mois dernier. Autrement, on notera aussi pas mal de chiffres de sociétés. À noter hier soir, after close, des chiffres de recul qui étaient mieux que le marché, mais qui décevaient sur certains points. Le titre perdait 8% after close. Même chose, déception chez Etsy, 14% de baisse. Les chiffres de GM qui n'ont pas plu, 8% de baisse. Uber était bon, mais par contre, ils ont annoncé une perte ajustée qui n'a pas plu non plus, 5% de baisse. Et puis, à côté de ça, on notera quand même que dans la tech, tout va bien, puisque AMD a pulvérisé ses plus hauts de tous les temps avait pour la sixième fois consécutive parce qu'on semble se diriger vers une domination totale d'AMD par rapport à Intel. Un combat des chefs qui dure depuis des années et des années, mais là visiblement AMD est en train de s'éloigner à toute vitesse pendant que Intel a crevé les quatre pneus au bord de la route. Et puis on ne peut pas ne pas parler de Robinhood qui a pris 50% hier. Donc je rappelle 24% la veille, 50% hier, plus ou moins doublé depuis l'IPO. Alors c'est devenu le nouvel AMC ou le nouveau GameStop. Valorisation de Robinhood ce matin, quasiment 60 milliards de dollars. Alors juste pour donner un ordre d'idée, 60 milliards de dollars, c'est plus gros que l'UBS et c'est presque trois fois le Crédit Suisse. Et puis si on le met en parallèle avec Goldman Sachs, puisqu'ils viennent un petit peu marcher sur leur plate-bande, eh bien c'est la moitié de Goldman Sachs. Goldman Sachs pèse 120 milliards et Robinhood pèse 60 milliards. Alors évidemment, on vient me dire qu'on peut pas comparer, mais c'est tout à fait normal et c'est parfaitement valorisé. En gros, Robinhood est devenu un nouveau meme stock et tout le monde est en train de manipuler le titre comme ils l'ont fait à l'époque. Mais voilà, 60 milliards pour une boîte qu'on peut quand même pas comparer aux méga banques qui existent aujourd'hui sur la planète. Enfin, on en reparlera peut-être un de ces jours. Donc voilà un peu où nous en sommes aujourd'hui. Je terminerai ce podcast d'aujourd'hui avec une question sur l'or. La personne me dit, est-ce que vous pensez que l'or peut encore monter beaucoup, sachant que depuis 2019, il a fait une belle remontée. N'est-il pas en fin de compte surévalué et ne risque-t-il pas de retomber à des niveaux comme 1450, comme là où il était en mars 2020? Alors effectivement, ces temps, je parle beaucoup de l'or parce que c'est devenu chiant comme la pluie. Il n'y a pas d'autre terme. Hein. L'or ne fout strictement plus rien ou pas grand-chose en tous les cas. Ce matin encore, il était à 1811, il était à 1815 hier. Wouhou, qu'est-ce qu'on s'excite, c'est vraiment passionnant. C'est très difficile parce qu'en fait, évaluer, dire que l'or a une valeur, bah, il a la valeur qu'on veut bien lui donner hein, parce que ça reste un métal inerte. La chose à laquelle on s'accroche toujours en tant qu'investisseur dans l'or, c'est qu'on sait que finalement, l'or, il y en a une quantité limitée sur Terre, qu'on ne peut pas en créer, que ça ne peut pas être détruit réellement. Donc du coup, forcément, il y a une quantité qui peut permettre, à un moment donné, s'il y a un énorme engouement, de monter très très haut. Alors, ce qu'on appelle les gold bugs, les gens qui sont super bullish sur l'or et qui pensent que quand l'économie va s'effondrer définitivement, eh bien, l'or pourra monter à 4 000 $, ceux-ci sont méga chauds dessus en partant du principe que quand tout s'effondrera, quand le système économique tel qu'on le connaît disparaîtra. Et à ce moment-là, forcément, les gens se rabattront sur l'étalon or. Mais comme on n'est pas encore en train de parler de Mad Max et du Dôme du Tonnerre, eh bien, aujourd'hui, c'est toujours très, très difficile. On sait que l'or est en général un hedge contre l'inflation, mais aujourd'hui, il ne fonctionne plus comme tel. On sait aussi que l'or est une protection contre la baisse des marchés, mais comme on est tous plus ou moins convaincus que les marchés baisseront plus jamais, eh bien là aussi, relativement gros désintérêt. Et en gros, si la seule chose sur laquelle je peux me raccrocher au niveau de l'or aujourd'hui, c'est cette espèce de configuration technique de flag dans lequel nous sommes depuis des mois. Donc là, on est en train d'aller en direction d'une sortie de ce flag dans les... d'ici fin octobre, je pense qu'on aura une direction. Et j'ai envie de dire, si d'ici fin octobre, l'or est en dessus des 1900, eh bien, je pense qu'on pourra avoir une belle surprise avec un retour espéré en direction des 2000-2100. En revanche, si on est en dessous des 1800 d'ici là, je vous dirais qu'effectivement, il y a un risque potentiel de retourner en direction des 1450, voire peut-être même un peu plus bas, parce qu'il pourrait y avoir un désintérêt ou une fatigue totale, puisque finalement, on dit toujours qu'il y a des gens qui mettent 5% d'or dans les dossiers des clients, dans les portefeuilles, juste pour avoir ça en termes de protection. Mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, il semblerait que beaucoup de gens ont cette position de 5% et donc vous pouvez pas non plus l'augmenter ad vitam aeternam. Du coup, ça fait qu'il y aurait plus forcément d'acheteurs. Enfin, chose est-il que l'or fonctionne toujours par cycle et pour l'instant, il y a un désintérêt total et il faut le surveiller. Mais c'est très, très difficile de dire où est-ce qu'il va aller. Effectivement, si vous êtes un gold box, on va vous dire que ça va aller à 4000 et puis les autres diront que de toute façon, on n'en a rien à foutre parce que ça ne sert à rien et puis que c'est le truc le plus inerte qui puisse exister. Voilà, perso... moi, je regarde toujours l'or d'une manière technique et là, je pense qu'on est effectivement pas loin d'une zone de pivot et qui pourra nous donner une direction un peu plus claire d'ici les 2 mois à venir. On espère y voir un peu plus clair et retrouver un petit peu de volatilité et de tendance, surtout sur l'or, parce que là, ça fait quand même quasiment un mois où on s'ennuie, mais profondément. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Voilà, grosso modo, nous sommes jeudi 5 août, comme d'habitude, il fait pas super beau, je vous souhaite une très très belle journée, et je vous retrouve demain pour conclure cette semaine pas très passionnante, et qui donne vraiment l'impression qu'on va en direction du repos du mois d'août, j'ai presque envie de dire, vivement le mois de septembre. Très bonne journée à tous, bye bye.